6h-7h, les petits matins de France Culture. Tout de suite, le journal Anne-Laure Chouin.
Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce mercredi 6 janvier, cette frappe aérienne qui a fait plus de 20 morts au Mali, dans un village du centre du pays, des civils qui se seraient rassemblés pour un mariage. Une frappe dont on ne sait pas pour l'instant si elle provient d'un bombardement de l'armée française. Cette dernière annonçait en effet avoir éliminé des dizaines de djihadistes dans le centre du pays, un des principaux foyers de violence au Sahel, dans le même secteur. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En Géorgie, aux États-Unis, les résultats de la double élection sénatoriale, cruciale pour le futur mandat de Joe Biden, semblent très disputés. L'un des candidats républicains semble l'emporter sur un siège, l'autre s'annoncerait plutôt démocrate. Les résultats ne sont pas encore définitifs. C'est une double élection cruciale. Donc, on rappelle que le président démocrate élu l'a remporté d'une toute petite tête dans cet État historiquement républicain. S'ils parviennent à conserver un des deux sièges en jeu, les républicains garderont leur majorité au Sénat. À Hong Kong, une cinquantaine de figures de l'opposition ont été arrêtées ce matin, la plupart pour subversion en vertu de la loi de sécurité nationale. Parmi eux, d'anciens parlementaires pro-démocratie, des militants plus jeunes ayant participé aux manifestations contre le gouvernement ces derniers mois et un citoyen américain. L'opposition estime que ce coup de filet est lié aux primaires non officielles organisées par les partis pro-démocratie l'année dernière. Plus de 600 000 Hongkongais s'étaient déplacés pour choisir des candidats aux élections législatives. En France, un conseil de défense sanitaire se tiendra ce matin avant une conférence de presse du Premier ministre. Demain, le gouvernement souhaite montrer, après de nombreuses critiques, qu'il accélère sa stratégie vaccinale. Hier, le ministre de la Santé a fait quelques annonces, notamment la vaccination des plus de 75 ans hors EHPAD avant la fin janvier et celle des pompiers et des aides à domicile de plus de 50 ans.
La rentrée littéraire d'hiver et le style lumineux de mon premier invité, l'écrivain haïtien Lionel Trouillot, auteur d'Antoine Desgommiers chez Actes Sud, un des grands romans de janvier.
Sur France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Puis nous prendrons la route des idées avec Felwine Sahar, l'économiste sénégalais, l'auteur d'Afrotopia, revient sur sa trajectoire intellectuelle, les rencontres et les lieux qui l'ont marqué dans un éloge du voyage, la saveur des derniers mètres.
La Grande Table, ce mercredi dès midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
France Culture, partenaire de Charlie Chaplin, le génie de la liberté. Acteur, auteur, réalisateur, chorégraphe, Charlie Chaplin est l'artiste le plus populaire et le plus complet au monde. Composé entièrement d'images d'archives et de scènes cultes des chefs-d'œuvre de Charlot, François Aimé et Yves Jelland proposent un portrait de l'artiste humaniste avec la voix de Mathieu Amalric. Charlie Chaplin, le génie de la liberté, ce soir à 20h50 sur France 3 et déjà sur la plateforme France.tv. Un partenariat France Culture à retrouver dans Plan Large d'Antoine Guillot.
Très bon réveil sur France Culture, il est 6h03 et c'est le monde vivant de Bruno David avec ce matin une espèce menacée, première représentante de l'histoire des vertébrés.
Une ouverture circulaire pavée de cônes jaunes acérés avec, au fond, un gouffre noir. Le gouffre est un œsophage, les cônes sont des dents, l'ouverture une gueule béante. Nous ne sommes pas en train de frémir devant un monstre imaginaire, un alien de cinéma. Nous contemplons la bouche d'une lamproie. La lamproie marine, Petromyzon marinus, est un animal de grande taille, jusqu'à 90 cm, qui a l'allure d'une anguille. Son corps lisse est doté de deux nageoires dorsales et d'une petite nageoire caudale, simple stabilisateur, car elle avance en ondulant comme un serpent. La lamproie a non seulement une bouche peu attirante, mais son mode de vie n'est pas exemplaire. Enfin, à nos yeux d'humains pétris d'anthropomorphisme. Dans l'estuaire de la Gironde, une lamproie cherche un gros poisson. Elle s'en approche, colle sa bouche sur son flanc et s'y accroche pour se faire transporter si c'est une jeune lamproie, pour se nourrir si elle est plus âgée. La bouche opère comme une ventouse, puis sa langue râpeuse gratte la peau du poisson avant que ses dents ne se plantent dans la chair. Elle est maintenant littéralement verrouillée sur le poisson. Elle commence à se repaître de son sang en sécrétant un anticoagulant qui lui permettra de le soutirer jusqu'à la dernière goutte. Pas étonnant qu'elle soit aussi désignée sous le nom de poisson vampire. Pour son excuse, la lamproie pourrait nous dire qu'elle vient du fond des âges. Son lignage s'enracine profondément dans l'histoire des vertébrés, à plus de 500 millions d'années, une époque où la mâchoire n'était pas encore apparue. Et de fait, les 79 espèces de lamproies connues sont dépourvues de mâchoire, d'où cette bouche bizarre. En prime, elles n'ont pas de véritable colonne vertébrale, mais des sortes de bourgeons cartilagineux. Les lamproies ont des cousines, les myxines, qui habitent les grands fonds, où elles se repaissent des carcasses des cachalots, orques ou baleines. Tout comme les lamproies, les myxines n'ont pas de mâchoire. De plus, elles sont aveugles, et chez elles, les équivalents des vertèbres ne sont plus que de petits nodules résiduels fichés au bout de la queue. Les deux types d'animaux sont des reliques d'un passé lointain. Nous sommes en face de ce qui reste des tout premiers représentants de l'histoire des vertébrés. Venue du fond des âges, notre lamproie est comestible et elle est traquée dans l'estuaire de la Gironde et au Portugal. À tel point que l'espèce européenne est menacée et que les populations naturelles peinent à fournir la demande. Il faut dire aussi que leur mode de vie les rend fragiles, car si les adultes vivent en mer, ils remontent le cours des rivières pour se reproduire et mourir après la ponte. Comme beaucoup d'espèces qui remontent les fleuves pour se reproduire, les activités humaines menacent leur cycle de vie. Au fait, aimez-vous la lamproie bordelaise? Si d'aventure vous vous priviez de cette recette, pensez que vous aurez préservé un représentant des premiers vertébrés.
Allez, on s'élève, 6h, 7h, les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. On connaît à peu près l'histoire des nababs d'Hollywood, les fondateurs historiques des studios californiens. On connaît Adolphe Zukor de la Paramount, Sam Goldwyn et Louis B. Mayer de la MGM, Harry Cohn de Columbia, les frères Warner bien sûr, Daryl Zanuck de la Fox. Mais on connaît moins bien les pionniers de l'industrie cinématographique en France. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Bernard Nathan. C'était pourtant un des plus grands et des plus importants producteurs français d'avant-guerre. Un homme visionnaire et un patron dynamique qui, tout en s'inspirant de l'exemple des grands studios hollywoodiens, a su résister à la féroce concurrence américaine. Un livre vient de sortir qui retrace la vie, la carrière et surtout la chute de Bernard Nathan, le fantôme du cinéma français. Il est signé par Philippe Durand et c'est édité par la manufacture du livre. Bernard Nathan a connu la gloire et son contraire, la déchéance, la descente aux enfers et ensuite l'oubli.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Bonjour Philippe Durand.
Bonjour.
Vous êtes historien du cinéma et on vous doit quelques ouvrages de référence, des biographies de Jean-Paul Belmondo, de Simone Signoret, d'Alain Delon, de Lino Ventura, mais aussi de Michel Audiard, donc spécialiste de l'histoire du cinéma populaire français. Est-ce qu'on peut dire que Bernard Nathan, je dois vous avouer qu'avant de lire votre livre et de voir un documentaire qui lui a été consacré il y a 2 ans, je ne connaissais absolument rien de Bernard Nathan.
Ah bah c'est vrai qu'il a été un peu oublié des historiens du cinéma parce que son histoire dérange, si je puis dire, mais il a pourtant marqué le cinéma et comme vous l'avez dit, il a un peu fait rentrer les méthodes américaines dans le cinéma français. Et ne serait-ce qu'à ce titre-là, il faut lui rendre hommage.
Comment il commence dans le cinéma? Parce que vous racontez, c'est un immigré, c'est d'abord l'histoire d'un migrant, comme on dit de nos jours, qui va rentrer dans le cinéma avec juste une envie d'être un ouvrier et de subvenir à ses besoins.
Oui, voilà, en fait, donc il quitte sa patrie pour des raisons religieuses et politiques, puisqu'il est juif et qu'il commence à y avoir des pogroms
en Roumanie.
En Roumanie, tout à fait. Et donc il vit en France parce que la France est la terre d'asile, c'est là où tout est possible, c'est l'Eldorado pour tous les gens de l'Est, et pour lui aussi, parce qu'il commence dans des petits métiers, et un peu par coïncidence ou par accident, il se retrouve dans le milieu du cinéma qui commence à éclore et à prendre vraiment forme. Et là, il travaille non pas comme acteur ni comme réalisateur, mais comme technicien dans un laboratoire. Et il s'intéresse de plus en plus au cinéma parce que, bon, bah, comme on le sait tous, le cinéma a un côté magique, mais surtout à cette époque-là, parce que tout était à faire, tout était à découvrir. C'était encore hormis pour quelques grandes firmes, c'était quand même quelque chose d'encore artisanal. Et lui va se lancer là-dedans avec une première, j'allais dire une première vision, qui est de faire beaucoup d'actualités, parce qu'à l'époque les actualités se regardaient dans les salles de cinéma, donc évidemment c'était pas en direct. On avait droit à une semaine, voire un mois d'écart entre l'actualité et la projection dans les salles. Mais lui va se dire bon, on va ramener beaucoup plus d'actualités dans les salles, et c'est comme ça qu'il a commencé. Et il s'est développé, il a pris de l'importance. Et
un autodidacte, on peut le dire.
Totalement, oui, là. Ben, vous savez, le cinéma, c'était même quand vous parliez des Warner et tout ça, c'est tous des autodidactes, hein. Ils n'ont aucune formation. En général, ils ont commencé par créer des petites salles de cinéma, et ils ont projeté des films qu'ils trouvaient à droite et à gauche. Ce qu'il faut pas oublier dans l'histoire du cinéma, c'est que c'était à la base un spectacle pour forains. C'était pas du tout une industrie, c'était pas du tout un spectacle pour très grand public.
C'est pour ça que les métèques vont prendre cette opportunité que leur offre le cinéma quand il commence à se développer. Il n'attire pas encore à cette époque-là, c'est-à-dire au début du cinématographe, les gens de bonne famille ou la noblesse. Ça, vous le dites très bien, vous dressez le parallèle entre ce qui passe en France et aux États-Unis, mais là où entre en scène Bernard Nathan, c'est dans cette période très particulière du passage du muet au parlant. C'est-à-dire plus aux États-Unis, on est sûr que le passage au parlant va développer l'industrie cinématographique. Bizarrement, en France, on n'y croit pas trop.
En fait, aux États-Unis, on est sûr de rien. Quand le cinéma parlant arrive pour la Warner, c'est son ultime va-tout. C'est-à-dire que si le film ne marche pas, si le chanteur de jazz avec Al Johnson ne marche pas, la Warner plie bagage, on ferme, on oublie, on passe à autre chose. Ça a été un énorme défi, un énorme... La preuve, c'est que personne n'avait osé aller aussi loin qu'eux, même si l'histoire du cinéma parlant était déjà dans les têtes de beaucoup de producteurs américains. Et en France, on a la même réflexion, c'est-à-dire que le cinéma parlant, bon, ça va coûter une fortune, ça va être très compliqué, ça ne va pas plaire au public, autant laisser tomber. Le cinéma, on s'est amusé avec pendant quelques années, il va s'éteindre de lui-même, on va passer à autre chose.
Et c'est là, contre enjeu, donc Bernard Nathan, en rachetant une des firmes qui avait fait quand même la gloire du cinéma français balbutiant, le cinéma français muet, bien sûr.
Oui, voilà, il y a deux énormes firmes en France qui sont Gaumont et Pathé, créées par messieurs Gaumont et Pathé. Et donc, Bernard Nathan apprend que Pathé est à vendre. Pourquoi Pathé est à vendre? D'abord parce que le directeur commençait à vieillir et parce qu'il ne croit pas du tout dans le cinéma parlant. Il est convaincu que ça va lui coûter trop cher, qu'il va devoir plier boutique, et donc il préfère vendre le plus rapidement possible, le plus cher possible, bien entendu, avant la catastrophe, si vous voulez. Mais Nathan, lui, n'a pas du tout cette vision. Il est convaincu que si on fait des bons films grand public, et donc ce sont les méthodes américaines, on peut toucher un nouveau public. Alors c'est très très difficile parce qu'il va falloir envisager de se regrouper sur la France. Si vous voulez, l'avantage du muet, c'était que le muet était international. Par définition, il suffisait de changer des intertitres et vous projetiez le film en Espagne, en Chine, où vous vouliez. Avec le parlant, ça va devenir plus compliqué. Et c'est d'ailleurs l'une des angoisses des producteurs et des distributeurs. Nathan, lui, dit « on va foncer, on va bien voir, on va mettre tous les moyens pour y arriver ». Et non seulement il y est arrivé, mais j'allais presque dire qu'il a fait des miracles.
Alors il a fait des miracles, mais d'ailleurs déjà à l'époque du muet, il va être un des premiers à utiliser des stars non françaises, et notamment une star américaine pour des productions cinématographiques. Ça vous le racontez très bien. Comment il arrive à s'imposer en tant que producteur? Est-ce que c'est parce qu'il a des idées, hein? C'est un homme d'idées, il veut adapter des grands chefs-d'œuvre littéraires, il a cette idée folle à l'époque, c'est-à-dire raconter l'histoire de Jeanne d'Arc au cinéma.
Oui, il a des idées, ça c'est indéniable. J'allais dire même qu'il a, en tant que migrant, comme vous disiez, il a plus d'idées qu'un Français, parce qu'il apprécie certains aspects de l'histoire de France et de la littérature française, qui pour les Français de l'époque, je veux dire, font partie du patrimoine, dont ils sont tellement évidents, tellement devant nous, qu'on les oublie, enfin que les gens de l'époque les oubliaient. Et lui, il se dit, on a Jeanne d'Arc, on a Les Misérables, on a des héros, j'allais dire, mondiaux, et des personnages mondiaux dans la littérature et dans l'histoire française, autant les utiliser. Mais tout cela, il le fait en ayant toujours un œil sur le cinéma américain, en se disant comment ils se font pour s'en sortir, comment ils se débrouillent. Or, avant lui, on n'osait pas, et surtout on n'avait pas envie de singer ni d'imiter le cinéma américain, qui était un cinéma un peu, non pas populaire, mais populiste, qui était très mal jugé par beaucoup de producteurs français. Et donc on disait, on va faire nous notre cinéma à la française, avec en général des comédies qui étaient des comédies militaires, etc., des films un peu bâclés. Lui, non, lui voit grand, et surtout, il réussit à réunir les fonds non seulement pour acheter la firme Pathé, mais aussi pour financer des films. C'est là d'ailleurs que va être le gros problème de la carrière et du parcours de Nathan, c'est d'où viennent ces fonds et comment les utilise-t-il ? Or, dans un premier temps, il les utilise pour acheter Pathé et pour produire, notamment, comme vous le dites, La vie de Jeanne d'Arc. Il a surtout été le producteur du premier film parlant français. Et il l'a fait à une vitesse faramineuse. Il a été en Angleterre parce qu'on trouvait pas de studio d'enregistrement en France et pour cause. Il a été donc, il a dépêché une équipe en Angleterre parce qu'il y avait un studio là-bas. Il a tourné le film là-bas. Il l'a ramené en France. C'était un culot monstrueux. C'était un pari audacieux et il l'a gagné. Le premier film français parlant, c'est du Bernard Nathan.
Alors, ce qui est passionnant en plus dans la vie de Bernard Nathan, vous venez de le dire, c'est un grand producteur, il est visionnaire, mais pas seulement, il va aussi investir dans l'équipement, dans les salles de cinéma, il va s'intéresser, comme il s'intéressait aux actualités, il va s'intéresser aussi à la distribution des films.
Oui, ça, tout ça, ce sont des méthodes américaines. Il faut savoir que la MGM, etc., possédaient donc leur studio d'enregistrement et de création de films. Ils avaient également la distribution des films. C'est eux qui géraient la distribution. C'est eux qui possédaient de nombreuses salles dans toute l'Amérique. Et donc, Bernard Nathan applique ces méthodes qui étaient déjà un peu appliquées. Si vous voulez, Gaumont et Pathé, ils avaient leur cinéma et tout ça, mais tout ça commençait un peu à vieillir. Il fallait l'adapter au parlant, donc il fallait investir dans des salles. Et Bernard Nathan se dit, autant investir, autant faire des salles luxueuses. Il y a eu le fameux Marignan qui était sur les Champs-Élysées à l'époque, qui était un cinéma fastueux, où le public, là, était émerveillé rien qu'en rentrant dans le hall. Et tout ça, c'est ça que veut Nathan. Il veut des paillettes. Et c'est là aussi pour la raison pour laquelle il invite des stars américaines, parce qu'il sait qu'elles sont connues en France, ce sont des références. Il est un des premiers à signer des contrats, c'est-à-dire des contrats de plusieurs années avec des acteurs et des actrices. Et tout ça, c'est de la méthode américaine, mais adaptée à la France et au public français. C'était ça la force de Nathan, c'est, j'allais dire, d'avoir un pied et un œil dans les deux continents.
Et autour de Bernard Nathan, vous venez de le dire, Philippe Durand, beaucoup de stars de l'époque, et parmi ces stars, une étoile qui brille dans le ciel parisien.
Le réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture.
Ne me demandez pas si j'aime la grâce, ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander au marin qui voyage s'il peut vivre sans la mer et le beau temps. Autant demander à une fleur sauvage s'il en peut vraiment se passer de printemps. Paris, 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 c'est sur la terre un coin de paradis. Paris, 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 de mes amours c'est lui le favori. Mais oui, paradis, ce que j'en dis on vous l'a déjà dit. Et c'est Paris qui fait la parisienne, qu'importe qu'elle vienne du nord ou bien du midi. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France, tout cela, mais c'est Paris.
Paris.
Le Paris de Bernard Nathan, c'est le Paris qui découvre le cinéma parlant, c'est le Paris aussi de Joséphine Baker. Ça vous racontait très bien la relation que va entretenir ce grand producteur avec les célébrités de l'époque dans votre livre, Philippe Durand, le fantôme du cinéma français. Mais maintenant, on va revenir aussi sur une autre facette de Bernard Nathan, c'est-à-dire que on se pose la question, comment on a pu oublier Bernard Nathan, parce qu'il va être, vous venez de le dire, le producteur des premiers grandes adaptations littéraires. Il sera celui qui va faire un grand film populaire autour du personnage de Jeanne d'Arc. Il va travailler avec les stars de l'époque, mais aussi en tant que distributeur, on lui doit l'arrivée de Mickey en France et en Europe.
Tout à fait. Il avait été au cours d'un voyage, on lui avait montré les dessins animés de Mickey. Alors évidemment, vous montrez les dessins animés de Mickey, un distributeur français, il va sourire doucement. Et lui, il se dit qu'il a un personnage là qui est inimaginable. Et il est le premier, effectivement, à avoir ramené Mickey en France. J'allais dire que rien qu'à ce titre-là, il mérite une petite place, voire une grande place dans les dictionnaires du cinéma.
Et maintenant, on va commencer à parler de La Chute, parce qu'il va connaître la gloire, Bernard Nathan, et puis ensuite l'enfer. Et s'il fallait commencer par donner le véritable nom de Bernard Nathan, parce que Bernard Nathan, c'est le nom d'emprunt de sa naturalisation, on peut le dire.
Oui, il s'appelle Tannenzapf. Né en Roumanie, et comme vous l'avez dit, Métèque, parce que c'est comme ça qu'on les appelait en France à l'époque, c'est un Métèque, qui ne s'est jamais caché qu'il était Métèque, mais c'est vrai que pour des raisons commerciales, Bernard Nathan, ça sonnait un peu mieux.
Et après les années folles, les années de terreur en France, une page noire s'ouvre avec des difficultés pour Bernard Nathan. Alors, dans votre livre consacré à ce producteur, à sa gloire, mais à sa chute, il y a deux choses très différentes. Il va être accusé d'avoir mis en faillite une entreprise, d'avoir été escroc, et en même temps, ce qu'on lit dans la presse de l'époque, c'est la montée de l'antisémitisme.
Oui, alors vous vous posez la question pourquoi on ne parle plus de Bernard Nathan aujourd'hui et pourquoi on en a peu parlé. C'est tout simplement parce qu'à travers son histoire, c'est tout un portrait de la France qui apparaît. Et c'est une France totalement antisémite. On oublie ça parce qu'on veut l'oublier, parce qu'il y a eu la guerre entre deux et tout ça, mais il faut se souvenir que dans les années 30, la France était antisémite. Il n'y a pas à nier là-dessus. C'est une évidence, c'est dans les journaux, c'est dans les faits. Et quelqu'un comme Bernard Nathan était une cible idéale, puisqu'il reprend une firme qui était en train de chuter, qui était en train de mourir. Non seulement il l'a fait renaître, mais il en fait la première firme de France, voire d'Europe. Et là, on commence à se douter en disant, mais c'est qui ce métier qui se permet de nous donner des leçons d'économie, de cinéma et de spectacle à nous, Français de souche, depuis des générations et des générations. Et là, il y a le clivage. Oui, s'il n'avait pas été juif, peut-être que son destin aurait changé. Mais en tous les cas, il l'a payé très très cher.
Alors, pour quelqu'un qui avait fait la Première Guerre mondiale, il va être arrêté, déchu de sa nationalité, emprisonné et enfin, pour terminer, livré aux nazis. Et il sera déporté en 1942 dans le camp de la mort d'Auschwitz. Il mourra là-bas, très peu de temps après. Bon, alors, ce qu'on reprochait à Bernard Nathan, c'était quoi au juste? C'était de s'être enrichi, d'avoir blanchi de l'argent, d'avoir
non,
fait...
Non, il n'y a pas eu blanchiment d'argent. Disons qu'il a fait une magouille financière.
Ouais.
Je suis pas un expert en économie, je pense que beaucoup de sociétés l'ont fait et le font encore. C'est-à-dire qu'il s'est servi d'une de ses sociétés pour acheter un brevet dans une autre de ses sociétés. En fait, il avait besoin de liquidités et il a fait un tour de passe-passe, comme ça, économique. Ça s'est su, et notamment il y a eu une personne qui a été flouée là-dedans. On va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ce qui est important à dire, c'est qu'il a été donc traîné devant les tribunaux. Il a avoué sa faute. Il a pas dit non, je n'ai pas fait, non, c'est pas fait. Il a dit oui, effectivement, j'ai fait une erreur. Il a expliqué pourquoi il l'avait faite, parce qu'il avait besoin de liquidité. Et je veux dire, ce tour de passe-passe financier aurait dû se solder, je connais pas la justice de l'époque, mais aurait dû se solder avec peut-être une peine de prison, une lourde amende, et en tout cas, bon, on lui tape sur les doigts. Mais si on devait aller fouiller dans toutes les sociétés françaises de l'époque, je pense qu'il y a eu bien pire. Mais ça a dégénéré du jour au lendemain. Parce qu'encore une fois, c'était le repreneur de la maison Pathé, donc qui donnait des leçons aux Français, des leçons d'économie et de spectacle. C'était un juif, et ça c'était impardonnable à l'époque, un juif qui s'enrichit à cette vitesse-là et qui devient un des personnages les plus importants du cinéma français, c'est très 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 mal vu.
Et donc?
Oui, non, j'ai l'air, on va le dégommer à une vitesse et une violence qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui.
Oubliez donc son militantisme, son patriotisme, oubliez aussi le soldat qu'il fut durant la Première Guerre mondiale, oubliez ce film magnifique, presque Saint-Sulpicien, dites-vous, sur la vie de Jeanne d'Arc, son ode aux soldats dans cet autre film, Les Croix des Bois, ses adaptations des grands classiques littéraires, y compris des classiques français, comme Victor Hugo et Mizola. Il va devenir le juif le plus haï de France, dites-vous, Philippe Durand, et la presse va lui sortir des affaires assez sordides. Par exemple, c'est quoi cette affaire de films pornographiques qu'il produisait en secret pour les milieux mafieux interlopes?
Voilà, alors ça c'est vrai, j'en ris parce que c'est tellement ridicule comme accusation, mais ça n'a pas dû le faire rire beaucoup. C'est vrai qu'on tout d'un coup on a imaginé, parce qu'il avait produit des films à une certaine époque, à l'époque vous savez, comme je disais tout à l'heure que le cinéma était forain, le cinéma était aussi beaucoup dans les maisons closes, c'est-à-dire qu'on beaucoup de petites firmes filmaient des scènes un peu guillerettes qui étaient projetées dans les maisons closes pour amuser et égayer ces messieurs. Et donc on l'a accusé de ça, on a ressorti des images, mais j'ai vu ces images, elles n'ont aucun rapport physiquement avec Bernard Nathan. Vous voyez une espèce de grand type qui doit faire 1m90 et lui il en faisait 1m60. Enfin bon, mais on l'accusait de tout, de pornographie, de tout. Il a tout pris parce qu'il fallait, si vous voulez, l'avilir le plus totalement possible. Il représentait à lui seul, il symbolisait tous les vices possibles et imaginables. Alors déjà, il était juif, ce qui n'était pas très bien vu à l'époque, mais en plus, donc, il était pornographe, escroc, etc., etc. C'est inimaginable de mettre autant de choses sur le dos d'un monsieur qui n'avait qu'un défaut, c'est d'avoir beaucoup de talent.
Alors, il y a quelque chose que vous n'expliquez pas dans votre livre, Philippe Durand, c'est pourquoi l'oubli après, c'est-à-dire qu'il aurait pu être réhabilité après la guerre. Eh ben, il n'y a rien eu. Silence jusqu'en 2017, je crois que c'est en 2017 que sort le documentaire de Francis Gendron, Nathan, le fantôme de la rue Francaire, et puis votre livre qui sort cette semaine. Mais pourquoi on l'a oublié? Pourquoi il n'a jamais été réhabilité?
Bah d'abord parce que il y a eu l'importance, et ça il faut pas la nier, de Charles Pathé qui a vraiment voulu mettre la casserole sur le couvert sur la casserole pour étouffer toute cette affaire et récupérer une partie de ses biens, et parce que si vous voulez il y avait un peu du côté de Charles Pathé, il était un peu honteux d'avoir vendu une firme qui était moribonde et deux ans après elle devient la première firme européenne sans lui. Donc il y avait ça, et il y avait surtout ce que je vous disais tout à l'heure, si on évoque aujourd'hui le problème Bernard Nathan, il faut évoquer le problème de l'antisémitisme en France à cette époque. Donc il faut se souvenir que nos grands-parents ou arrière-grands-parents n'étaient pas des blancs-bleus.
Oui, mais ça c'est reconnu aujourd'hui. Cette page noire de l'histoire française est reconnue aujourd'hui.
C'est reconnu dans certains domaines, mais c'est pas reconnu dans le milieu du cinéma français. On ne parle jamais des producteurs juifs français. C'est même ceux qui ont après la guerre, qui ont été des très très grands producteurs. Il y en a eu beaucoup et il y en a encore. Tout ça, c'est une page du cinéma français qu'on n'aime pas évoquer. Pourquoi, je ne sais pas trop. En tous les cas, oui, il y a un mur du silence autour de cette époque, parce qu'on voudrait croire que la France, c'est Paris et toutes ces fanfreluches. Mais non, la France, le cinéma français, a ses pages de honte. Et là, c'est même plus une page de honte. C'est-à-dire, c'est une encyclopédie de la honte, ce qu'a vécu Bernard Nathan.
C'est un ouvrage très intéressant, très instructif et très documenté. Le fantôme du cinéma français, gloire et chute de Bernard Nathan à la manufacture de livres qui vient de sortir. Merci beaucoup, Philippe Durand, d'avoir accepté de répondre à nos questions depuis le Québec où vous vous trouvez, si je veux. C'est bien ça?
Je m'y trouve momentanément, oui. Merci à vous.
Merci.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec les petits matins de France Culture et être fidèles au réveil culturel. On se retrouve donc demain à la même heure. Dans un instant, les premières informations du jour.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Acteur, metteur en scène, scénariste, écrivain et sociétaire de la Comédie Française, c'est un boulimique de travail au désir incessant de jouer et faire jouer.
En revenant par le train ou revenant à travers les rues de Versailles, dans le parc de Versailles, oui, c'était des lieux où j'aimais bien parler à voix haute.
Denis Podalydès se raconte à voix nue de lundi à vendredi à 20h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Et si l'économie ouvrait la voie à un avenir meilleur ?
Sur France Culture, Tiffaine de Rocchini.
Cette semaine, on se met en quête d'une économie plus respectueuse de l'homme et de l'environnement. Comment orienter la croissance vers la santé et le bien-être ? La finance va-t-elle accélérer sa conversion à l'écologie ? Et comment pouvons-nous, individuellement et au sein de l'entreprise, participer à la construction de ce monde d'après ? Autant de questions dont on ne peut plus aujourd'hui faire l'économie.
Entendez-vous l'écho du lundi au vendredi à 14h sur France Culture et sur franceculture.fr.
France Culture, il est 6h30, tout de suite le journal par Anne-Laure Chouin. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement prépare ses prochaines mesures sanitaires. Un conseil de défense a lieu ce matin sur le sujet, alors que l'exécutif craint l'impact des fêtes de fin d'année sur les futurs chiffres de la contamination. Par ailleurs, la stratégie actuelle de reconfinement pourrait bien peser à long terme sur la croissance. Selon l'économiste Philippe Aguillon, nous l'entendrons. Dans ce journal également, retour sur la libération de la parole des victimes d'inceste. Après les révélations de Camille Kouchner sur les agissements de son beau-père dans un livre... Et puis l'Iran s'en prend à la Corée du Sud. Téhéran bloque un pétrolier sud-coréen en attendant de récupérer des fonds bloqués à Séoul. Un conseil de défense sanitaire avant demain une conférence de presse à Matignon. Le tout pour déterminer les nouvelles règles sanitaires à suivre dans les semaines qui viennent. Dans un contexte de vives critiques contre le gouvernement, à cause notamment d'une campagne de vaccination dont les débuts sont chaotiques. La pandémie de Covid-19 continue de dicter l'agenda de l'exécutif qui va devoir se prononcer officiellement sur la réouverture des cafés-restaurants, des salles de sport ou des salles de spectacle. En ce qui concerne le couvre-feu, il devra préciser quel département pourrait adopter la version plus stricte à 18h. Le gouvernement, qui tente d'évaluer l'incidence qu'ont eu les fêtes de fin d'année sur le niveau des contaminations, le nombre de cas semble augmenter, si l'on en croit les chiffres de Santé publique France. Mais pour les spécialistes, Véronique Julia, il est trop tôt pour savoir quel a été l'effet réel de ces rassemblements.
Il y a Noël, bien sûr, mais Noël était-il le moment le plus redouté ? Pas forcément, car Noël, c'est familial, on veut protéger ses parents, ses grands-parents. Beaucoup de Français ont pu renoncer aux réunions familiales, d'autres se sont fait tester avant. Et l'exemple américain de Thanksgiving a sans doute servi d'alerte, on a peut-être été plus vigilant. Ce qui inquiète le plus, c'est le 31, car c'est plus jeune, plus festif. Et puis, il y a l'entre-deux. On réveillonne le 24, mais on reste en famille le 25, le 26, le 27, le 28. Pour toutes ces raisons, il faut sans doute attendre encore quelques jours, d'autant qu'il faut raisonner aussi en chaîne de transmission. À Noël, l'enfant peut contaminer le père, qui sera asymptomatique, et qui peut contaminer ensuite le grand-père, plus vulnérable, qui fera lui une forme sévère. Il faut donc même plus de 15 jours pour que la chaîne se traduise en chiffres. Ce qui est sûr, c'est que le flux reste soutenu à l'hôpital, sur un plateau élevé, et que pas mal de questions restent en suspens. Quel effet aura eu le maintien du couvre-feu ? Quel effet peut avoir l'introduction du variant britannique en France ? Enfin, dans quelle mesure les congés et les vacances scolaires qui réduisent les contaminations extra-familiales auront-ils compensé l'impact des réunions de famille, du froid et des voyages à travers la France ?
En tout état de cause, les bars et restaurants ne devraient pas rouvrir avant la fin du mois, voire bien plus tard. Jean Castex devrait le confirmer demain. Un secteur économique qui va donc continuer de souffrir. Les prévisions pour l'économie française estiment déjà que la récession en 2021 devrait avoisiner les 10% en 2020. Sans pour l'instant de signes positifs quant au retour de la croissance. Une situation due, selon l'économiste Philippe Aguillon, en grande partie à l'alternance de confinement et de déconfinement qui empêche d'avoir une vision à long terme. Il était hier l'invité du journal de 22h de Stanislas Vazak.
Tout le problème, c'est d'essayer d'éviter la troisième vague. Donc là, il y a un peu une course. C'est évident que si vous déconfinez, vous augmentez les chances d'une troisième vague, notamment avec cette mutation du virus qui nous vient de Grande-Bretagne, qui est beaucoup plus contagieux que sa version précédente. Donc, alors évidemment, il y a d'un autre côté le vaccin, d'où l'importance que ça aille vite sur la vaccination. Mais vous voyez, là, c'est un peu une course, parce que évidemment, si on a une troisième vague, ça veut dire qu'il va falloir reconfiner. Vous voyez que les Anglais déjà confinent. C'est très possible qu'on soit amené à le faire, nous, dans deux semaines, j'en sais rien. Et évidemment, tant qu'on est dans une politique où on confine et on déconfine, on ne peut pas vraiment faire repartir l'économie parce que les entreprises ne vont pas planifier sur le long terme. Elles ne vont pas investir dans la recherche-développement, elles ne vont pas investir dans des emplois de long terme. Elles vont gérer la survie et accumuler des liquidités pour faire face au prochain confinement, dont on ne sait jamais quelle est la durée du prochain confinement et des confinements. Donc c'est ça le drame du stop and go, c'est que ça empêche de planifier à long terme, ça empêche les entreprises d'investir dans la croissance, elles gèrent la survie. Or évidemment, plus vite on vaccine, plus vite on sort du stop and go, puisque évidemment, ce qui va vraiment nous sortir de la pandémie, c'est le vaccin.
L'économiste Philippe Aguillon. Le politologue Olivier Duhamel est visé depuis hier par une enquête pour viol et agression sexuelle ouverte par le parquet de Paris. Les suites évidemment de la publication d'extraits du livre de Camille Kouchner dans la presse. Cet ouvrage, Familia Grande, sort demain et révèle que son beau-père, Olivier Duhamel, donc, a violé son frère jumeau à la fin des années 80. Une révélation qui ravive le souvenir d'une autre révélation dans un autre ouvrage paru il y a un an, celui de Vanessa Springora, Le consentement, qui dénonçait l'emprise de l'écrivain Gabriel Matzneff sur celle qui n'était alors qu'une adolescente. Les témoignages pour briser le silence autour de l'inceste ou de la pédocriminalité se multiplient et cela crée un contexte favorable à la parole des victimes. C'est ce que pense en tout cas la journaliste Charlotte Pudlowski qui a sorti un podcast en septembre dernier, podcast intitulé « Ou peut-être une nuit » qui raconte l'inceste dont sa mère a été victime. Écoutez-la, interrogée par Maïwenn Bordron.
Ça montre qu'il est possible de parler, ça montre à toutes les victimes qu'elles ne sont pas seules et qu'elles ont le droit de parler et qu'elles peuvent être entendues. Donc je pense que toutes ces affaires-là, il n'y en a aucune qui seule peut détruire le patriarcat, mais en revanche, chacune permet aux autres œuvres derrière d'exister. C'est-à-dire que moi, j'aurais jamais fait, ou peut-être une nuit, je pense, s'il n'y avait pas eu le mouvement MeToo et l'affaire Weinstein, qui m'a permis de réfléchir de manière plus approfondie et plus aiguë aux violences subies par les femmes et aux mécaniques du silence. Le livre de Vanessa Springora, il me semble l'avoir entendu dire ça aussi en interview, il vient aussi de cette libération plus globale de la parole. Adèle Haenel, elle l'a dit aussi en interview. C'est parce qu'il y avait tous ces enjeux politiques débattus dans les médias qu'elle a davantage pris conscience, et parce qu'il y a eu aussi, je crois, ce documentaire sur Michael Jackson, il me semble que ça a joué aussi dans sa volonté de parler, de prendre la parole. Donc chaque œuvre et chaque prise de parole en autorise d'autres et permet à d'autres d'émerger, et donc c'est une espèce de chaîne collective, et je pense que c'est très propre à ces sujets-là et au silence globalement, c'est-à-dire que c'est une chaîne qui doit toujours être entretenue.
Charlotte Pudlowski, dont vous pouvez retrouver l'entretien sur notre site franceculture.fr. Une frappe de l'armée française aurait fait plusieurs dizaines de morts dimanche dans le centre du Mali. Selon les militaires, il s'agit d'une opération visant des djihadistes, mais d'après des sources locales, médicales notamment, cette frappe aurait fait des victimes civiles, dont plusieurs enfants. Selon les premiers témoignages, des tirs dans la commune de Bounti seraient venus d'un hélicoptère. Ils auraient tué une vingtaine de personnes. Les militaires français, eux, parlent effectivement d'un assaut de l'armée dans ce secteur pour neutraliser, c'est le terme, des dizaines de combattants djihadistes, le tout dans une zone difficile d'accès. On y reviendra largement dans notre journal de 7 heures. Un vaste coup de filet anti-opposition à Hong Kong. Ce matin, une opération de police a entraîné l'emprisonnement de plus de 50 activistes pro-démocratie dans l'île, et notamment un avocat américain. Une répression menée au nom de la loi de sécurité nationale pour subversion. C'est la plus vaste opération de répression menée depuis que Pékin a imposé en juin dernier cette loi répressive dans l'ancienne colonie britannique. Tension diplomatique entre l'Iran et la Corée du Sud. Hier, Téhéran a accusé Séoul de retenir en otage 7 milliards de dollars de fonds iraniens. La veille, l'Iran avait saisi un pétrolier sud-coréen dans les eaux du Golfe, un pétrolier qui aurait, selon les autorités, enfreint les lois sur l'environnement marin. Séoul demande donc la libération du navire et de ses 20 hommes d'équipage. Les explications de notre correspondant sur place, Nicolas Roca.
Le Hankook Chomi est le premier navire saisi par Téhéran depuis plus d'un an et la manœuvre pourrait avoir un objectif précis. L'Iran accuse la Corée du Sud de retenir depuis fin 2019 7 milliards de dollars de fonds qui lui appartiennent du fait des sanctions américaines. Si la République islamique assure que la saisie de la vingtaine de membres d'équipage et des 7200 tonnes de produits chimiques du pétrolier ne sont pas une mesure de représailles, elle affirme que le gouvernement de Corée a pris en otage sans raison valable ces fonds. Selon la version officielle des gardien de la Révolution, le bateau aurait été coupable de pollution chimique, des accusations rejetées par l'opérateur du navire. En Corée du Sud, la télévision montrait ce mardi au moins 5 vedettes aborder le pétrolier en route pour les Émirats arabes unis. Ce regain de tension dans la zone intervient alors que le vice-ministre des Affaires étrangères sud-coréen, Cho Jong-kun, doit se rendre la semaine prochaine à Téhéran. Un navire de guerre sud-coréen s'est déplacé hier à proximité dans la zone stratégique du détroit d'Ormuz où transitent 70% des importations de pétrole du pays. Séoul opte pour l'instant pour la voie diplomatique. Le ministère des Affaires étrangères s'est refusé à tout commentaire sur les désaccords entre les deux pays sur la question des fonds, mais a annoncé qu'une délégation gouvernementale sera envoyée le plus tôt possible à Téhéran.
Nicolas Roca à Séoul. Le temps de ce mercredi, gris, froid et neigeux par endroits. Attention, verglas ce matin sur la façade ouest et le sud du pays. Le temps sera plus sec avec quelques éclaircies. Le soleil parviendra également à s'imposer dans le sud-est. Il fait toujours assez froid ce matin avec des minimales proches de 0 degré sur la moitié nord. Les maximales seront stationnaires, comptées cet après-midi de 1 à 9 degrés du nord au sud. Et il est bientôt 6h40 sur France Culture. Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Anne-Laure Chouin.
Dans votre journal des idées ce matin, 10 ans après les printemps arabes, la demande de justice sociale et de démocratie perdure dans les pays qui les ont vus naître.
Oui, Anne-Laure, c'est que, mis à part la Tunisie, ces mouvements n'ont pas abouti à de véritables transformations, voire ont sombré dans la guerre civile. L'hebdomadaire Le 1 revient sur cette histoire de révolution confisquée. Assef Bayat évoque une faiblesse constitutive due à l'absence de projet clair. Le sociologue est l'auteur d'un ouvrage non encore traduit dont le titre résume bien le problème, Une révolution sans révolutionnaire. Il décrit une mobilisation pour changer la vie mais sans dirigeant ni vision claire d'un ordre social alternatif et de la façon d'y parvenir. Leurs protagonistes n'ont montré que peu d'intérêt pour la construction d'une organisation et pour le leadership dans ses formes traditionnelles. Ils pensaient et espéraient que leur mobilisation populaire contraindrait les régimes à se réformer dans un sens démocratique, mais la plupart de ces régimes, malgré quelques belles paroles, ont refusé d'entreprendre de véritables réformes en matière de gouvernance et d'économie. L'autre défaut structurel provient selon lui d'un décalage persistant au sein de ces mouvements entre les élites et les classes populaires qui imaginaient la révolution autrement que la frange politique qui s'est mise à parler au nom de la révolution. Elles imaginaient un nouvel ordre des choses qui changerait leur vie et mettrait fin à leur marginalisation économique, aux terribles disparités de classe et régionales. Cette soif très forte de justice sociale s'exprimait essentiellement chez les urbains pauvres, les ruraux marginalisés et dans la classe moyenne pauvre, y compris les jeunes diplômés sans emploi. Pour y répondre, il fallait repenser radicalement l'économie et adopter une vision qui remette en cause le modèle néolibéral que la classe politique tenait largement pour acquis. C'est en ce sens-là, écrit-il, que les soulèvements arabes étaient des révolutions sans idées révolutionnaires. Et c'est pourquoi la justice sociale est restée l'aspiration la plus inassouvie de ces soulèvements, raison pour laquelle ils renaissent aujourd'hui au Maroc, au Soudan, en Algérie, en Irak ou au Liban, dans la continuité des printemps arabes et la référence partagée à cette histoire récente. À retrouver dans ce numéro le témoignage de Samar Yazbek, qui a pris part dès le début à la révolution syrienne avant d'être contrainte à l'exil. Je cite « La sauvagerie de la répression que nous avons subie pour des manifestations pacifiques dépasse l'imagination et les bouleversements qui ont suivi ont été si rapides et d'une telle brutalité qu'ils ne nous ont pas laissé réfléchir à ce que nous pouvions faire. Nous nous contentions d'encaisser la violence et d'essayer de raccommoder nos vies. » L'écrivaine avoue penser sans arrêt à cette Syrie que nous avons rêvée libre, unie, indépendante et démocratique et qui est aujourd'hui morcelée, écharpée et occupée par des forces russes, turques, iraniennes, américaines, djihadistes. Omar al-Shoghri a également subi la férocité de la répression du printemps syrien alors qu'il n'avait que 15 ans. Dans La Croix, l'Hebdo, il revient sur la prison, la torture, la faim et la mort de ses proches dans les geôles syriennes. Lui, qui vient d'être admis à l'université de Georgetown à Washington, se souvient de la solidarité entre détenus. Il y avait des docteurs qui m'ont appris à prendre soin de mes plaies et des psychologues qui m'ont enseigné comment m'adapter à la torture. Tout cela en chuchotant à l'insu des bourreaux. C'est ce qu'il appelle son université des murmures. Aujourd'hui, il ne cesse de témoigner, en particulier auprès des juges d'instruction européens qui enquêtent sur les crimes commis en Syrie. Le site d'information Les Jours poursuit son enquête au long cours sur le procès de Koblenz en Allemagne, où l'ancien colonel des renseignements syrien Anwar Raslan est jugé pour crimes contre l'humanité aux côtés du sergent Eyad al-Gharib. Au chapitre 14, c'est notamment le recours systématique aux violences sexuelles par le régime de Damas qui est abordé. Lena Burström, l'auteur de l'enquête, prévient lectrices et lecteurs. Cet épisode contient des scènes violentes. Les violences sexuelles ne sont pas des incidents isolés, constate maître Patrick Crocker, représentant plusieurs victimes, parties civiles au procès. Ce sont des instruments de répression au même titre que la torture. Joumana Seif, juriste et activiste syrienne, souligne qu'en Syrie, une femme qui a été détenue est toujours soupçonnée d'avoir été violée. Un stigmate déshonorant qui isole la victime et l'enferme dans le silence. Les bourreaux le savent bien. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier.
Voilà, c'est l'heure des enjeux internationaux. Au sommaire aujourd'hui, la vraie fausse réconciliation des pays du Golfe.
Les frontières terrestres et maritimes ont rouvert cette nuit entre l'Arabie Saoudite et le Qatar et c'est le Koweït qui l'a annoncé hier lors d'un sommet très attendu du Conseil de coopération du Golfe. Le Koweït, médiateur dans la crise qui opposait depuis 2017, juin 2017 précisément, le Qatar à un quartet d'États arabes. L'Arabie Saoudite, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte reprochaient au Qatar tout à la fois une vision opposée à la leur de l'avenir du monde arabe lors des printemps arabes en 2011, ses liens avec la Turquie, mais aussi son ambivalence avec l'Iran. Cela faisait donc plus de 3 ans que le Qatar était soumis à un blocus de la part de ses voisins qui parlaient, eux, de boycott. Bonjour Fatia Dazieni.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue spécialiste des monarchies de la péninsule arabique. Vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM. Pour revenir d'abord sur ces 3 ans de crise, jusqu'où sont allés d'un côté l'Arabie Saoudite et on en parle moins les Émirats Arabes Unis d'un côté et de l'autre le Qatar dans les invectives, les insultes, les mesures de rétorsion des uns envers les autres?
Oui, vous avez raison d'insister sur ce trio parce que c'est vraiment ces 3 États qui sont directement concernés par cette crise à un niveau très grave. Les Émirats Arabes Unis, en fait, sont quasi, avec leur prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, sont les instigateurs, finalement, de cette crise, parce que c'est lui qui porte, si vous voulez, le combat anti-frères musulmans. C'est véritablement une idéologie dans son... C'est un mantra pour lui. Il n'a jamais accepté que le Qatar puisse soutenir aussi ouvertement une alternance politique possible, la seule possible dans le monde arabe, à savoir un soutien au courant des frères musulmans. Et c'est ce qui explique donc cette crise profonde. Et donc les Émirats Arabes Unis ont été accusés par le Qatar d'avoir lancé une cyberattaque sur le site de
l'agence
officielle de presse qatari. Et ils ont dénaturé un discours de l'émir afin de se donner un prétexte pour en arriver au cas extrême, non seulement rompre les relations diplomatiques, mais ça, c'est pas une première. Ça s'était déjà produit entre mars 2014 et novembre 2014, entre ces mêmes pays, Émirats, Arabie et Bahreïn, ont rompu leurs relations diplomatiques pour les mêmes raisons. Alors, ils ont envoyé plusieurs messages au jeune émir, puisque ce Tamim vient de succéder à son père, qui a abdiqué en sa faveur en juin 2013, et il ne s'était pas attaqué à l'émir père quand il était encore en fonction. Donc, en rompant les relations, au cours de la crise du 5 juin 2017, ils pensent avoir affaire à un petit amateur, à une espèce de marionnette, car pour eux, celui qui tire encore les ficelles au Qatar, c'est l'émir père, Cheikh Hamad, qui a conçu donc Al Jazeera et toute cette diplomatie publique qui a fait la réputation du Qatar et qui a gêné tous ces autocrates. Donc ils n'hésitent pas c'est autour de cet outil technologique, les cyberattaques, les réseaux sociaux, que les Émirats, l'Arabie Saoudite et dans une moindre mesure le Bahreïn et l'Égypte vont lancer une campagne de dénigrement pour saper la réputation du Qatar.
Alors en fait, Yadesi Eni, vous mentionnez donc une jeune génération, la question est aussi générationnelle, une jeune génération de dirigeants qui arrivent dans ces États du Golfe et avec une stratégie de communication et de désinformation très offensive, une guerre de l'information étrangère à la culture qui prévalait jusque-là dans les États du Golfe, avec quelles conséquences économiques par ailleurs, le boycott, le blocus selon les termes employés, en tout cas la fermeture de la frontière très soudaine le 5 juin 2017 entre l'Arabie Saoudite et le Qatar.
Oui, alors c'est le lendemain de l'interruption des relations diplomatiques, le 6 juin, l'Arabie Saoudite ferme ses frontières terrestres, mais les autres États, les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn, ferment leur espace aérien et maritime. Donc le Qatar estime assez à juste titre qu'ils sont victimes d'un embargo très sévère, unilatéral, et donc pour le Qatar, il a fallu qu'il trouve d'autres moyens de contourner donc ces fermetures, mais la fermeture de la frontière terrestre, puisque c'est la seule frontière terrestre qui lie le Qatar à un autre pays, avec en l'occurrence l'Arabie Saoudite, ça a été un coup de semonce terrible pour le Qatar. Alors sur le plan économique, humanitaire aussi, parce qu'il faut bien voir que le Qatar et l'Arabie Saoudite en particulier sont quasi le même pays. Ils ont la même religion d'État qui est le wahhabisme, ils sont constitués des mêmes tribus, des mêmes familles, mais c'est pareil avec le Bahreïn et les Émirats, il y a beaucoup de familles mixtes, mariées, qui sont issues des mêmes tribus, parce que les tribus n'ont pas la même, si vous voulez, il n'y a pas de frontières tangibles entre les tribus, une appartenance identitaire fondamentale dans cette région.
Alors, est-ce que les acteurs de cette crise ont fini par se dire qu'ils se faisaient du tort à eux-mêmes, ou est-ce qu'il a fallu toute la force de conviction d'une médiation extérieure, et notamment, encore une fois, de l'administration de Donald Trump, qui n'en finit pas de conclure son baroud d'honneur géopolitique, qui parlait, lui, d'une fâcherie tribale et qui a vraiment voulu que les États du Golfe se réconcilient?
Oui, alors au début, évidemment, comme Trump n'a aucune culture politique de la région, qui ne comprend pas la géopolitique et qui ne comprend pas la complexité en plus de ça de cette région, il a tout de suite pris le parti de suivre aussi les Émirats et l'Arabie Saoudite contre le Qatar. Mais très très vite, son ministre des Affaires étrangères de l'époque, Rex Tillerson, et son ministre de la Défense de l'époque, James Mattis, lui expliquent que c'est pas aussi simple, que le Qatar est un allié primordial pour les États-Unis, puisque les États-Unis mènent leur guerre en Moyen-Orient depuis la base Al-Hudayd au Qatar. Et ça, Trump n'en avait absolument pas l'idée. Il pensait que cette base se situait plutôt aux Émirats.
Les Émirats qui veulent absolument convaincre les cercles du pouvoir à Washington d'abandonner leur allié qatari. Donc voilà, comment cette médiation a abouti?
Il a fallu tout un jeu politique de la part des Émirats, et c'est ça la stratégie émiratie, d'influencer la décision américaine, et c'est ce qu'ils ont essayé de faire en demandant à Washington d'abandonner l'allié qatari. Alors ça n'a pas du tout été le cas, puisque quand même Trump, Dieu merci, était entouré, et bien entouré. Et finalement, Trump n'a eu de cesse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'essayer de réconcilier les points de vue. Et il a fini par avoir cette phrase fabuleuse. Écoutez, c'est une vraie fâcherie en tribale. Il va falloir essayer de vous mettre d'accord. Et donc, au terme de son mandat, on l'a vu, il a essayé de partir en beauté, en laissant sa marque avec les réconciliations de pays du Golfe avec Israël. Et donc, pour terminer, il voulait absolument finir sur vraiment une belle note et réconcilier ses points de vue. On assiste donc à ce sommet du CCG, au 41e sommet à Lola, à cette réconciliation qui est pas factice dans la mesure où quand même c'est pas rien pour le Qatar on renoue et on réouvre les frontières et les autres États vont suivre parce qu'on le ministre des Affaires étrangères égyptien est en présence et Jared Kushner, le gendre de Trump, est là aussi.
Et là aussi.
Pour bien montrer que voilà toute la famille est réconciliée face au vrai défi qui attend aujourd'hui la région et les États-Unis, à savoir la négociation de l'accord avec l'Iran.
Voilà, on ne peut pas ne pas relever, évidemment, on ne peut pas ne pas relever la synchronisation des calendriers des monarchies du Golfe qui souhaitent montrer l'image de pays unis, parfois en dépit de l'évidence, et puis l'arrivée aux États-Unis d'une administration démocrate qui n'a pas caché vouloir reprendre le dialogue avec le grand ennemi des États du Golfe, l'Iran. Alors Fatia Dazieni, on dit que les États du Golfe voudraient, par cette réconciliation, resserrer les liens face à l'Iran. Or, le Qatar et l'Iran ont plutôt de bonnes relations.
Mais il n'y a pas que le Qatar et l'Iran qui ont des bonnes relations dans le Golfe. Oman a même un accord de défense avec, avec l'Iran. Le Koweït a de très bonnes relations avec l'Iran. Simplement, la surenchère anti-iranienne de la menace, elle est particulièrement présente en Arabie Saoudite. Aux Émirats Arabes Unis, on la maquille un peu. C'est plus le credo frère musulman qui anime le prince héritier. Et le Bahreïn, qui n'a pas réellement de politique étrangère souveraine, puisqu'il est entièrement financé et porté par l'Arabie Saoudite et les Émirats, suit. Donc, effectivement, l'Iran constitue un problème, même pour le Oman et le Koweït, mais il n'évalue pas la menace au même niveau que les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite.
Alors on verra, d'autant que l'Iran a dit hier reprendre l'enrichissement à 20% de l'uranium sur le site souterrain de Fordo, une manière de poser les bases et les conditions du dialogue avec les États-Unis. On verra comment ça influence les relations entre ces États du Golfe. En deux mots, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, Fatia Dazieni, sur les relations avec la Turquie. On a beaucoup reproché au Qatar ses relations avec la Turquie. Le Qatar n'a pas du tout pris ses distances avec Erdogan. Il finance d'ailleurs à coup de millions de dollars des investissements dans le pays. Alors comment ça va évoluer?
Ah mais la Turquie est un allié fondamental pour le Qatar, mais cette crise a renforcé cette alliance, c'est clair, comme la crise a poussé le Qatar à se rapprocher à l'Iran. Et de toute façon, même l'Arabie Saoudite, le roi Salman, a rappelé le président Erdogan lors du sommet du G20. Donc la question turque, elle devient centrale. Merci. Et elle a été centrale dans cette crise. Mais chacun voit aussi ses propres intérêts.
C'est merci
encore
beaucoup.
Une fois les Émirats Arabes Unis qui mettent cette question des frères musulmans et de l'alliance turco-qatari au cœur.
Fatia Dazieni, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. La guerre de l'information des monarchies du Golfe dans la crise du Golfe de juin 2017, c'est l'article qui est à paraître là le 13 janvier dans un livre dirigé par Céline Maranger et Maud Kessar, Les guerres de l'information dans le monde à l'ère numérique au PUF. Merci beaucoup à vous. Vous êtes chercheuse à l'IRSEM et je vous souhaite une bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
La rentrée littéraire d'hiver et le style lumineux de mon premier invité, l'écrivain haïtien Lionel Trouillot, auteur d'Antoine Desgommiers chez Actes Sud, un des grands romans de janvier.
Sur France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Puis nous prendrons la route des idées avec Felwine Sarr, l'économiste sénégalais, l'auteur d'Afrotopia, revient sur sa trajectoire intellectuelle, les rencontres et les lieux qui l'ont marqué dans un éloge du voyage, la saveur des derniers mètres.
La Grande Table, ce mercredi dès midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
testé, alerté, protégé, vacciné. Bonjour
ensemble,
Guillaume Herner.
Continuons l'effort. Bonjour Julie Gacon. Bonjour à toutes et à tous.
Et en matière de non-vaccination, on a le nom du coupable.
Oui, si la vaccination est si lente en France, c'est qu'elle a été organisée. Ah, je vous vois sourire. Organisée, c'est un grand mot. Elle aurait été pensée. Ah bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Par McKinsey. Alors, McKinsey est l'une des plus grandes entreprises de conseil au monde. Elle conseille 147 des 200 plus grandes entreprises au monde. Elle est impliquée dans différents scandales, dont celui des opioïdes aux États-Unis. Et McKinsey conseillerait donc le gouvernement français, si l'on en croit le canard enchaîné. McKinsey aurait donc confié le plan de vaccination, ou plutôt aurait fait ce plan de vaccination, ce qui est bien réjouissant, puisque d'ordinaire, on pense dans notre pays qu'on a suffisamment d'énarques et de hauts fonctionnaires pour ne pas avoir en plus à payer des consultants extérieurs pour faire le travail de l'État. Car le consultant, c'est bien connu Julie, demande à être payé pour vous donner l'heure en regardant votre montre. Il est l'incarnation des « bullshit jobs ». Jobs à la con, pour les traduire. Cher au regretté David Graeber, le terme de bullshit job étant quand même assez polysémique, puisqu'il désigne à la fois des jobs de faible qualité, mais aussi et surtout des jobs pipeau, où l'on rétribue grassement des qualités largement surévaluées. Alors je vous laisse vous-même deviner à quelle catégorie pourraient appartenir les jobs de consultants chez McKinsey, qui auraient fait donc cette campagne de vaccination. Reste que la distinction entre haute fonction publique et cabinet de conseil est en réalité des plus factices, et ce dans tous les gouvernements du monde. De nombreux politiques ont aujourd'hui suivi un cursus dans une école de commerce, par exemple de Dominique Strauss-Kahn à François Hollande, en passant par Maëlle de Calan. Et si je vous en parle, c'est parce que Maëlle de Calan, ancien membre du parti Les Républicains, est présenté par le Canard Enchaîné comme l'un des représentants de McKinsey, en charge donc de cette campagne de vaccination. Au départ, l'idée de confier à un cabinet de conseil le soin de gérer la vaccination en France recouvre une belle utopie. On peut gouverner un pays comme on administre une entreprise, mais à chaque fois, cette utopie se heurte hélas au réel. Un État n'est pas une entreprise, et si l'on confond l'un avec l'autre, on cumule les maux des deux systèmes, impuissance de l'État et faillite de l'entreprise.